Bonjour à tous. J'ai intitulé mon message ce matin « Une vigilance indispensable ». Quand on a des enfants, on leur inculque une vigilance particulière quand ils doivent traverser la route, par exemple. Donc il y a des moments où une vigilance est vraiment importante. Et je crois dans la Bible, on retrouve ça aussi, hein, des moments où la vigilance est vraiment importante. Et ce matin, on va commencer avec quelques versets en 1 Timothée. 1 Timothée, c'est une lettre qu'on appelle pastorale, une lettre de Paul écrite à un responsable d'église. Mais ça ne concerne pas que les responsables d'église. Paul était 3 ans à Éphèse et il a enseigné. Et on s'imagine 3 ans, un Paul à Saint-Quentin qui enseigne toutes les semaines. Après quoi, la tâche est facile, n'est-ce pas? Mais non, le meilleur enseignement n'est pas une protection totale. Il faut toujours rester vigilant, même si on a des très bons enseignants. Je connais un peu Gilles, je sais qu'il a à cœur d'enseigner bien et j'ai encore de bons souvenirs des études publiques qu'il avait fait à l'époque à Hirson. Donc c'est précieux d'avoir un bon enseignant. Mais après, quand l'enseignant il part, ben, il faut rester vigilant et il faut se rappeler certaines choses. Et Paul avait un collaborateur, un Timothée qui était d'origine en Asie. Il avait un père grec, une mère israélite qui s'appelle Eunice. Elle était une femme pieuse et il avait une grand-mère, Loïs, apparemment toutes les deux, qui enseignait bien Timothée dans les Écritures. Donc il avait déjà un arrière-plan avant de rencontrer Paul. Et Paul est devenu disciple, non, Timothée est devenu disciple de Paul et même un compagnon d'œuvre, aussi quand il était à Éphèse. Et puis, quand Paul y part, il laisse Timothée tout seul, il le laisse donc à Éphèse, où vit Timothée certainement quand il reçoit cette lettre que Paul a écrite dans les années 63-66, par là. Alors maintenant, Paul, il invite d'abord Timothée à la vigilance. Paul lui transmet des conseils dans sa lettre, on ne va pas tout regarder ce matin. Comment il faut se comporter dans l'église, au sujet du culte, au sujet des personnes âgées, des jeunes, des hommes, des femmes, des esclaves, le choix de collaborateurs, de responsables, etc. Et cette lettre est en fait comme un ordre de mission pour ce Timothée, aussi pour légitimer son ministère. Et j'aimerais lire les premiers 3 versets. 1 Timothée 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion, et la paix te soit donnée de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Je trouve ça intéressant déjà que Paul, il se présente. Quand moi j'écris une lettre à mon enfant, je ne me présente pas. Mais Paul, il se présente alors qu'il écrit à un de ses meilleurs ou plus proches collaborateurs. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Je pense que la lettre est destinée non seulement à Timothée, mais aussi à être lue dans l'Église. Et donc, il faut qu'il sache qui est ce Paul. Et probablement, cette lettre a tourné aussi dans des églises. La preuve, elle tourne encore aujourd'hui chez nous, dans notre Église. On peut la lire et l'étudier. Et je crois que c'est important. Donc, Paul rappelle d'abord à Timothée qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Et il est apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu. Donc, ce n'est pas des hommes, ce n'est pas de lui-même qu'il a cet appel, mais de Jésus-Christ. Et il dit aussi de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Donc, il s'appuie bien sur Dieu, qui est un Dieu sauveur. Nous venons de fêter la Pâque, et je pense que vous avez aussi entendu un message au sujet de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est par sa mort et sa résurrection qu'il y a l'espérance. Une espérance qui ne se ternira jamais. Et Dieu s'est manifesté comme étant puissant, plus puissant que la mort. Et ça, c'est aussi notre espérance, bien sûr. Ce verset 1 ou 2 sont déjà en fait tout un package de très dense qui inclut l'Évangile, qui inclut l'intervention de Dieu dans notre monde. On pourrait donc dire, en tout premier, Timothée, l'Église ne dépend que de Dieu, pas premièrement de toi, de ton œuvre, de ce que toi tu fais. Mais sois vigilant de te rappeler que c'est l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est important pour chaque responsable d'Église, c'est important pour chaque membre de l'Église, de réaliser que c'est l'œuvre de Dieu. Même si Gilles se mouille la chemise et transpire et donne beaucoup, ce n'est pas l'Église de Gilles, c'est l'Église de Christ, l'Église de Dieu. Et c'est son œuvre et il continuera son œuvre. Et puis Paul continue et il dit à Timothée, mais « Je suis ton père spirituel, rappelle-toi de ça. » Timothée veut dire « celui que Dieu honore. » Et il a trouvé la foi par Paul. Donc, il est son enfant. Certainement, il est devenu chrétien par Paul. Avant, il était certainement un croyant juif. Il croyait déjà en Dieu, mais il n'avait pas conscience de l'œuvre de Christ qui est le Messie et qui a transformé le monde et donné l'espérance vivante par sa résurrection. Donc, Paul est son père spirituel et Timothée est son enfant légitime dans la foi. Donc, cette lettre de Paul à Timothée, c'est comme une lettre d'un père à son fils. Il a appris beaucoup de choses à côté de son père spirituel, de Paul. Et il doit être vigilant de ne pas oublier son passé, sa conversion, les conseils de son père spirituel. Certainement pas non plus oublier les conseils de sa mère et de sa grand-mère, hein, qui ont donné des bons conseils pour dans son passé déjà. En plus, Paul invite Timothée à la vigilance parce que, tout comme Paul, Timothée a été appelé et confirmé. Et quand on lit un peu plus loin, dans 1 Timothée, au verset 18, Paul dit « Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat avec foi et avec une bonne conscience. » Donc, Timothée a été confirmé par des prophéties. Aujourd'hui, les prophéties, ça nous met parfois un tout petit peu mal à l'aise, parce qu'il peut avoir des abus. Mais la prophétie, c'est donc pas que des choses à l'avenir. Il y a bien des prophéties dans l'Ancien Testament qui concernent la venue du Messie, qui concernent ce qui va venir. Mais il y a aussi les prophéties concernant un événement qui doit se passer, une confirmation d'un ministère et une révélation exprimée. On retrouve ça, par exemple, dans Actes 13. Et je vais juste afficher ou lire ce verset, verset 2. « Un jour, ils adoraient ensemble le Seigneur et ils jeûnèrent. Le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, ça, c'est une parole prophétique. Faites quelque chose. Et là, c'est le Saint-Esprit qui le déclare. Ça ne nous est pas dit comment il l'a fait. Est-ce que c'est aussi par une personne qui a donné une prophétie? Ça me semble probable. Bien sûr, Dieu peut parler aussi comme ça, mais la plupart des fois, c'est quand même par la parole ou par les hommes. Et donc, l'Église doit le savoir. L'Église doit savoir, Timothée ne s'est pas proclamé lui-même comme un homme qui a une autorité dans l'Église, une responsabilité. Il doit être reconnu par l'Église. Et donc, c'est en quelque sorte comme si Paul disait « Vigilance, ne met pas en question la qualification du ministère que Dieu t'a donné. » Surtout quand c'est difficile ou quand on est mis en question. Et ça, on peut étendre, bien sûr, pas que pour les responsables d'une église, ça peut aussi être un ministère de prière que quelqu'un a. Ne le mettez pas en question. Ou quand un ministère de musique ou de chant ou pour les enfants, ou, etc. Donc, qu'on soit vigilant, quand Dieu nous met vraiment quelque chose à cœur, de le garder, en nous. Et une dernière chose pour laquelle Paul invite Timothée, c'est qu'il lui rappelle qu'il a reçu un mandat. Donc ce n'est pas juste un conseil de Paul que Paul lui envoie là. Il a un objectif précis. Peut-être à un certain moment, il aurait envie de chercher autre chose. De se dire, ah, c'est lourd ici, dans cette église. Oh, moi, je vais chercher une tâche plus facile. Ou je veux rejoindre Paul. C'était plus facile quand c'était lui qui était devant. Mais, ta foi, il faut persévérer. Donc, vigilance de persévérer dans le mandat reçu sans esquiver la situation ou la personne ou les personnes difficiles. Et ça peut aussi être dans le métier que tu fais, ou dans le voisinage que tu es, dans la famille que tu es, persévère dans l'appel que le Seigneur t'a donné, d'être témoin pour lui, là où le Seigneur t'a placé. Donc, première vigilance. Deuxième vigilance, qui concerne en particulier l'enseignement. Et là, c'est important de voir le verset 5. Le but de ces instructions, c'est un amour qui proviennent d'un cœur pur, d'une conscience et d'une foi sincère. Et certaines traductions disent d'un cœur pur, d'une conscience pure et d'une foi pure. Le but de l'enseignement, c'est quoi? C'est l'amour pur. Et je trouve des fois, on est un peu à côté. Souvent, l'objectif de l'enseignement, c'est d'avoir un diplôme, d'avoir une tête remplie, de savoir beaucoup de choses. Paul recadre et rappelle à Timothée, l'objectif de l'enseignement, c'est un amour pur. À un moment donné, je me rappellerai toujours ce moment, j'ai découvert que l'amour peut être extrêmement égoïste. Ça paraît peut-être paradoxal, mais c'est le cas. Même l'amour que j'ai envers Dieu peut être égoïste, parce que je veux prendre, hein, je veux prendre ce que Dieu me donne, et qu'il me donne encore plus, n'est-ce pas? Et personnellement, je suis même convaincu que c'est une des causes du divorce les plus fréquents aujourd'hui. C'est un amour égoïste qui étouffe les beaux sentiments. Je suis convaincu que les jeunes, quand ils se mettent ensemble, il y a des beaux sentiments. Mais, et ça peut être un vrai amour, on se donne pour l'autre, mais l'égoïsme peut vite étouffer cela. Un amour pur protège contre l'égoïsme. Un amour pur s'éloigne de la domination et de la révolte. Mais est-ce qu'un tel amour pur peut naître de bons discours, de belles paroles, d'un grand savoir, ou en imitant quelqu'un? Je ne crois pas. Pierre l'a essayé. Pierre a imité son maître, Jésus. Il voulait l'aimer et il lui a même dit, « Si tout le monde t'abandonne, moi je t'aime. Je t'accompagne jusqu'à la mort. » On sait où ça finit. Avec des gros pleurs, une grosse déception personnelle. Donc, un amour pur, une conscience pure, une foi pure ne peut pas se produire par nous-mêmes. L'amour pur a une triple source. Premier élément que j'aimerais relever, un amour pur a une source dans un cœur pur. Un cœur pur ne peut que être pur quand c'est Dieu qui l'éclaire. Il y a différentes sources de lumière, n'est-ce pas? Dernièrement, je suis allé dans le jardin avec une petite lampe de poche pour chercher les limaces. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Après, j'ai pris le projecteur portable. Alors là, j'en ai bien vu, j'en ai trouvé. Et je crois que Dieu veut être ce projecteur qui éclaire et qui dévoile des impuretés et qui dirige nos cœurs, nos pensées vers la repentance pour être purifiés et pour pouvoir se détourner de ce qui n'est pas selon sa volonté et d'être pardonné. L'amour naît donc d'un cœur purifié et pardonné par la grâce offerte de Jésus-Christ, ce qui est devenu possible quand il est allé à la croix pour nous. Donc, un cœur touché par l'amour de Dieu peut aimer d'un amour pur. Donc, soyons vigilants. Un cœur pur n'est pas produit par une religion, une philosophie, ou les efforts humains, mais seul par Dieu, et cherchons-le là, chez Dieu. Deuxième source d'un amour pur, c'est une conscience pure. C'est lié, en fait. Si la conscience fonctionne, elle discerne le mal, elle dévoile le bien et permet d'agir en conséquence. Donc, on doit être vigilant d'agir ainsi, de ne pas tolérer le mal, mais l'abandonner. Pour bien fonctionner, elle doit être connectée à Dieu, à ce Dieu saint, à ce Dieu pur et aussi à la parole qui dévoile bien des éléments. Et il y a un troisième élément qui nous aide à avancer, c'est une foi sans hypocrisie ou une foi pure. C'est une foi qui n'est pas seulement une apparence. Elle n'est pas déconnectée d'autres éléments. Au verset 2, à la deuxième partie, Paul écrit que Dieu, le Père et Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accorde grâce, bonté et paix. Donc, il y a des éléments qui font partie de cette foi et qui sont de cet amour, qui sont liés à l'amour, la grâce et la miséricorde. Et la paix est la conséquence de la grâce reçue par Jésus-Christ par la foi. Et cette grâce ne va pas sans la miséricorde, parce que Dieu nous est miséricordieux. Donc tous, donc c'est en lien avec la foi, et surtout, ces éléments, la grâce, la miséricorde, la paix, l'amour pur, sont donnés par Dieu, dit Paul. Donnés, pas mérités. Pas fabriqué, pas atteint par la spiritualité ou à l'âge, mais donné. Donc, soyons vigilants que ça reste basé, que notre foi reste basée sur le Seigneur. Petit élément que j'introduis, c'est quoi la foi ? C'est l'espérance du chrétien fondé en Christ. C'est un peu ce lien constant d'un GPS avec le satellite. Sauf que dans le GPS, ça ne marche pas toujours bien. Il y a des moments où on est... Oula. Vous passez la frontière de la Suisse, souvent ça ne marche pas. Parce que la Suisse n'est pas dans l'Europe. Voilà. Donc, la foi, c'est l'espérance du chrétien. La foi regarde à Jésus-Christ, elle est nourrie par sa grâce, par son amour, par sa miséricorde et sa paix. Spurgeon, un prédicateur anglais, a défini la foi de la manière suivante. Il dit, il y a trois éléments qui constituent la foi du chrétien. Le premier élément, c'est la connaissance. Il faut connaître certaines choses au sujet de Dieu. Il faut savoir qu'il existe, qu'il s'est incarné en Jésus-Christ qui est devenu homme. Il faut savoir que Jésus-Christ était sans péché, qu'il est mort pour notre châtiment, qu'il nous offre le pardon, qu'il est ressuscité, qu'il est parti au ciel, élevé au ciel, en fait ça à l'ascension. Donc, la résurrection et l'ascension prouvent qu'il a dit vrai. Donc la connaissance est importante, mais elle est liée à une personne, à Jésus-Christ. Deuxième élément, il faut croire Jésus-Christ. Il faut réaliser que ses paroles, ses actes, c'est du réel, du concret. C'est important de réaliser qu'il offre le salut, qu'il y a un seul chemin, un seul sauveur, et c'est Jésus-Christ, et qu'il est vivant et qu'il tient ses promesses. Donc, connaître, croire, et puis engager sa confiance, ma confiance. Lui confier la direction de ma vie. Ça, c'est la foi, les trois éléments ensemble. Troisièmement, il y a des raisons de vigilance. Paul, dans cette lettre, il énumère certaines raisons pourquoi Timothée doit être vigilant. Une première chose, pour ne pas s'occuper des éléments accessoires ou fausses, mais de ce qui est important. Il y a parfois des éléments spectaculaires qui peuvent nous attirer. Je me rappelle, dans la jeunesse, c'était les endroits où il y avait des réveils. J'ai un ami qui voyageait de pays en pays, là où il y a les réveils, c'est là qu'on va voir l'œuvre de Dieu. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est pas ça. Aujourd'hui, on peut courir après les événements qui se passent dans le monde évangélique. On les trouve sur Internet, les choses spectaculaires qui se font. À l'époque de Timothée, on le voit, il y a les versets 3 et 4 qui le disent. Je lis dans ma traduction parce que c'est trop petit là. En partant pour la Macédoine, je t'ai encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner de doctrine étrangère à la foi, qu'ils cessent de porter leurs intérêts à des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celles-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de Dieu. Donc, ils peuvent nous dévier. Il paraît que, j'ai lu dans un commentaire, qu'à l'époque, il y avait un livre qui s'appelle « Les livres des jubilés » qui a tourné dans les églises ou surtout dans les synagogues. Donc, c'est les rabbins qui en raffolaient de ces histoires fabuleuses qui était en fait une interprétation allégorique de l'Ancien Testament. Donc, on prend l'histoire, on tricote autour, et ça devient super intéressant, et beaucoup plus intéressant que le texte lui-même, n'est-ce pas? Agrémenté encore par des histoires certainement inventées, etc. Et il y avait aussi le monde grec, où la rhétorique était très importante. Et aujourd'hui, sur Internet, je pense, c'est un des pièges d'avoir un prédicateur qui prêche avec beaucoup de ferveur, beaucoup de zèle, des gens parfois extrêmement doués, n'est-ce pas? Et on risque de mettre plus d'importance sur ça, alors que le contenu n'est souvent pas si fameux que ça. Donc, vigilance de ne pas délaisser la parole ni la sobriété au risque de dévier du but. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez reçu l'info qui est un peu un info-choc. Dans le monde évangélique, ils ont fait un sondage et ils ont réalisé qu'il y a 39% des chrétiens seulement, évangéliques, hein, qui lisent la Bible une fois par semaine. Seulement 39%. C'est pas tous les jours, hein? Une fois par semaine. Donc, ça nous interroge, n'est-ce pas? On a besoin de lire pour savoir si ce que je raconte là-devant est juste. On a besoin de s'appuyer et de trouver les bons éléments. Un deuxième élément de vigilance, il y a danger d'adapter et d'accommoder le discours dans l'Église aux tendances actuelles. On pourrait l'adapter. Et il faut donc garder chaque élément à sa place. Au verset 7, nous lisons, « Ils se posent en enseignant de la loi, mais au fond, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. » Ces enseignants, ils avaient de l'ambition. Ils voulaient enseigner. Mais au fait, ils ne comprenaient pas vraiment de quoi il s'agissait. Donc, il fallait garder chaque élément à sa place. Voilà, j'ai les versets là. Et réaliser ce qui est essentiel. Donc, vigilance. Est-ce que ce passage cité parle-t-il vraiment de la thématique dont il est utilisé, pour laquelle il est utilisé? Chaque verset doit être à sa place et on doit chercher ce que veut dire le texte et pas chercher à faire dire quelque chose au texte. Et après, Paul parle encore de la loi. Je ne vais pas maintenant m'attarder beaucoup de ça. C'est un thème pour soi, je pense. Un troisième et dernier élément de la de pourquoi la vigilance? Parce qu'on peut s'éloigner de la foi véritable. Donc, il y a le danger d'une foi qui soit un discours, un beau discours, déconnecté de la vie, sans répercussion au quotidien. Encore cette semaine, quelqu'un m'a dit, il a été dans une église quelque part, il a été choqué parce que le prédicateur a dit « Mais les miracles, ça n'existe plus. » Qu'est-ce qu'on répond? Pas facile, hein? Mais on peut quand même dire « Oui, si, ça existe. » Déjà, la conversion, c'est un énorme miracle quand quelqu'un trouve le Seigneur. Et quand il y a des choses qui changent dans nos vies, c'est des miracles, etc. Et il peut avoir aussi des guérisons et d'autres choses si Dieu l'accorde. Donc, la foi a encore quelque chose à faire à aujourd'hui. La conscience, elle est bien si elle est connectée à Dieu. Et on a intérêt, donc, que notre relation avec Dieu soit vraiment intacte. Parce que si on s'écarte de la foi, ben la relation avec Dieu est affectée aussi. Et Paul, il cite au verset 18 à 20 deux personnes ouais, qui n'ont pas fait les bons choix. Au verset 19, j'ai lu « Combat le bon combat avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. » Des personnes qui ont fait naufrage dans la foi. Un naufrage, ce n'est pas forcément la fin. Paul a vécu, il paraît, 4 naufrages et a survécu aux 4. On voit des miracles, n'est-ce pas? Et donc Paul, s'il dit qu'ils ont fait naufrage dans la foi, c'est qu'il a compris qu'ils sont éloignés et il aimerait tant qu'ils reviennent, qu'ils ne s'éloignent pas plus. Lorsqu'on fait une randonnée dans une montagne et on réalise à un moment donné, on a fait un mauvais choix, on a pris une mauvaise direction, on peut avoir deux attitudes. On peut dire, ok, il faut qu'on retourne tout de suite. Ou on peut dire, oh, on va essayer, peut-être ça amènerait quand même au bon endroit. Et plus qu'on va le mauvais chemin, mais plus qu'on s'éloigne, et plus qu'il faut revenir, et plus que c'est difficile de revenir, parce que peut-être le temps nous manque, ou là, ça devient déjà nuit, ou toutes sortes d'éléments. Donc ne nous éloignons pas plus si nous avons pris un mauvais chemin, mais revenons. Et effectivement, il n'y a pas que de danger du naufrage. Il y a effectivement danger de noyade. Et c'est ça, je crois qu'il veut dire qu'ils sont en danger de s'écarter pour l'éternité de la vérité. Donc, vigilance, Timothée, garde le cap de l'enseignement sans perdre de vue que l'objectif et le retour des naufragés et des égarés. Je vais conclure. Si le danger dans l'Église est aussi réel qu'il concerne tout ce qui ne produit pas l'amour pur, un cœur pur, une conscience pure, que je n'ai pas noté, une foi sincère, la vigilance est donc de mise aussi pour nous. Et c'est donc de la plus grande actualité pour nous aussi aujourd'hui d'étudier, de lire la Bible et en particulier aussi cette lettre au Timothée pour être averti, pour garder le cap et pour avancer dans notre foi et notre chemin avec le Seigneur. J'aimerais encore prier.